Et je vais essayer de prêcher avec un masque pour faire comme le pasteur. Mais lui, c'est culturel, lui, ça fait. Il a toujours fait comme ça, moi pas. Hein. Donc ça me passe son temps à le remonter parce qu'il glisse sur le nez. Enfin bref, c'est comme ça. Écoutez, il y a deux semaines, c'était Jeff qui prêchait et nous a, comment on va dire, proposé un défi. On va dire ça comme ça. Non, c'est peut-être pas ça qu'il faut dire, mais il nous a proposé de vivre ce temps de l'Avent avec un calendrier de l'Avent original. La lecture chaque jour d'un chapitre de l'Évangile de Luc. Il y a 24 chapitres dans l'Évangile de Luc. 24 chapitres, 24 jours, un par jour, et on arrivera à Noël. Je trouve que c'est une belle préparation que de lire pas à pas le récit de celui qu'on fête à Noël, celui qui est apparu comme un simple enfant dans une crèche, don suprême de Dieu, source de vie. Donc je l'ai fait, voilà, j'ai commencé à le faire. Alors d'abord je me suis rendu compte qu'ils sont longs les chapitres de l'Évangile de Luc, hein. c'est plus long que les deux versets qu'on reçoit tous les jours sur l'appli, machin chose. Bon, voilà, mais ça fait rien, il faut s'accrocher, c'est pas... Et c'est intéressant. Et donc aujourd'hui on est le 13 décembre, donc je vais vous proposer de commenter, de méditer, de réfléchir à un texte de ce chapitre 13 de l'Évangile de Luc. Et on va lire ensemble le début du chapitre Luc, du chapitre 13 de Luc. Voilà, je mélange les mots. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je. » Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Et puis il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. On va s'arrêter là pour ce matin. Je vous invite à lire la suite. Et si vous n'avez pas démarré le calendrier de l'Avent, vous pouvez démarrer au chapitre 13, c'est pas très grave, vous reprendrez le reste au mois de janvier, hein, on peut faire ça en tournant. Voilà, ce texte est situé dans une série de propos que l'évangéliste Luc rassemble à cet endroit-là, c'est les chapitres 11 à 13 de l'Évangile. C'est un peu l'équivalent dans Luc du sermon sur la montagne qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 5 à 7. Hein, c'est un peu les mêmes paroles, les mêmes échanges que l'on retrouve là, mis dans un ordre un peu différent. Bon. L'intention des auteurs faisait qu'il les a placés là, mais on trouve dans ces chapitres 11 à 13 la comparaison avec les listes des chants, hein, que même Salomon n'était pas vécu aussi bien que. On trouve l'incitation au dépouillement, donner ce que si on veut prendre ton manteau, donne aussi ta tunique, puis aussi c'est chercher d'abord le royaume, hein, on retrouve ces mêmes textes. Et puis dans ces discours, Jésus est interrompu, interpellé par des gens, et autant il était parfois harcelé, on va dire, ou secoué par des théologiens, des scribes, des pharisiens, des gens qui voulaient des réponses sur des sujets comme ça, mais là, voilà, quelques personnes vinrent lui raconter, donc c'est, on va dire, ce sont des gens comme vous et moi, juste des gens qui sont face à des questions qu'aujourd'hui on appelle des questions existentielles. Autant des journalistes, au temps des évangiles, il n'y avait pas de journalistes. Enfin, en tout cas, pas comme on les a aujourd'hui. Il n'y avait pas BFM TV, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Bon. Mais on voit avec ce texte que les nouvelles circulaient quand même bien. On pourrait d'ailleurs s'amuser à imaginer comment aujourd'hui les médias rendraient compte de ces deux événements, hein, les grands titres, massacre dans les lieux saints, une tour s'effondre, 18 morts, mais que fait le gouvernement, etc. Enfin, bon, on peut s'imaginer des choses. On a un crime politique et puis un fait divers, finalement pas très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui, et ce que nous avons au jour le jour dans nos quotidiens, dans nos journées télévisées. Rien n'a vraiment changé. Et devant tous ces événements qui font l'actualité, hein, qui sont chaque jour remplacés par un autre qui est encore plus fort que celui d'avant, enfin, les jours se succèdent, qui d'entre nous n'a pas éprouvé un certain malaise ? Comme ces gens-là, la marche du monde nous met mal à l'aise. Et nous nous demandons, mais quel est le sens de tout ça ? Alors, l'année 2020 est particulièrement fertile avec tout ça, évidemment. Avec cette pandémie qui n'en finit pas, des espoirs plusieurs fois déçus d'une reprise d'une vie normale, sans masque, même si certains s'en accommodent mieux que d'autres. Les stop and go incessants, hein, pensons aux professionnels des spectacles, hein, qui ont, je ne sais combien de fois, relancé les répétitions de leurs trucs, et puis bing, ça s'arrête. Et puis les chiffres du nombre de contaminations, de morts, etc., qu'on nous impose tous les jours. Et puis aussi les propos des complétistes, hein, qui trouvent des explications fumeuses, que c'est quelqu'un qui a volontairement, enfin voilà, tout ce qu'on a comme ça, et qui nous assaille. Quel est le sens de tout ça ? Ou bien aussi des choses encore plus dramatiques, hein, comme l'assassinat d'un professeur en classe, qui nous ramène à plein de questions. Pas simples, ces questions, sur la société, sur ses équilibres, la géopolitique, la raison des ruptures de ces équilibres. Et puis, bien sûr, la recherche des culpabilités. Devant ces étonnements, ces questions que j'appelle existentielles, Shakespeare, hein, disait dans Macbeth, « La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. » Oh, c'était bon, c'est Shakespeare, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Et aujourd'hui, la marche du monde, comme à l'époque où les gens sont venus interpeller Jésus, nous paraît parfois comme cela. Et la surabondance d'informations qu'on a aujourd'hui ne fait qu'accentuer cette impression. Et c'est un fait. Il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et quand ça tourne pas rond, on cherche un coupable, on cherche un responsable. Et c'est bien ce que font ces gens qui viennent là, ils viennent de proposer à Jésus ça. Et la question c'est pourquoi ? Et qui est coupable ? Et qui est responsable de cela ? Alors ils interrompent Jésus, et après tout, ils ont raison de l'interrompre, parce que c'est en questionnant que l'on apprend. Et on va essayer d'écouter la réponse, ou les réponses que Jésus donne. Parce que des Galiléens ont été massacrés alors qu'ils offraient un sacrifice à Dieu. Et toutes les questions qu'on peut soulever de ça. Est-ce qu'ils ont été massacrés parce que Dieu n'a pas agréé leur sacrifice ? Est-ce que Dieu a quelque chose contre la Galilée ? Il faut oublier qu'à ce moment-là, Jésus est vraisemblablement à Jérusalem. Il y a un certain nombre de textes dans les chapitres précédents qui nous montrent qu'il s'est décidé, il monte à Jérusalem et c'est là qu'il fait le plus gros de son enseignement. Et on sait bien qu'entre Jérusalem et la Galilée, il n'y avait pas forcément toujours une entente absolue. Alors il faut un coupable. Qui est coupable ? Pilate, les Galiléens ? Jésus va prendre le temps de répondre à cette question et il va répondre, il me semble, en trois phases. Enfin, en tout cas, on peut détacher trois phases dans la réponse. D'abord, il leur répond par un autre fait divers. Il parle de l'effondrement d'une tour. Un événement qui apparemment était connu dans tous les esprits, sans doute assez récent. Pour Pilate et les Galiléens, on aurait pu s'attendre simplement à ce que Jésus condamne Pilate. Comme on le fait, Jésus ne se prive pas dans d'autres textes hein, de pointer du doigt les responsables politiques de l'époque. Hein, quand il dit « Hérode vient demander, dites à ce renard que, je vois quoi, Jésus, qu'il n'est pas tendre hein, avec les gens. » Voilà, mais c'est pas ça. Mais au lieu de faire cette condamnation que les gens attendaient peut-être, il se contente de révéler, de rappeler un autre événement qui a fait l'actualité. Un événement qui semble n'avoir aucun lien avec le premier. Et c'est comme si Jésus disait « Oui, bah oui, on est entouré de plein de choses étonnantes. Le crime de Pilate est injuste, absurde, mais finalement pas plus que ce fait divers qui a entraîné la mort de 18 personnes, vu des gens qui l'ont subi. » Et si à la rigueur, dans le premier cas, on peut pointer du doigt Pilate, dans le second, comment trouver un coupable ? Alors aujourd'hui, sûrement, on aurait cherché un coupable, il y aurait une enquête pour savoir qui c'est qui n'avait pas mis assez de ciment dans le béton et qui fait que ça s'est écroulé, ou je ne sais pas quoi. Évidemment, on a des tas de moyens de faire ça. Mais, hein, rappelez-vous l'effondrement du viaduc à Gênes il y a quelques années, là, qui a défrayé la chronique, à savoir qui avait fait quoi et pourquoi, quel était, comment les politiques avaient laissé les choses se faire. Et en fait, ce que Jésus montre, c'est que ça ne sert à rien de chercher un coupable. Il y a eu l'épisode des Galiléens, puis il y a aussi l'épisode de la tour, et puis on aurait pu en citer plein d'autres. En ne désignant aucun coupable, Jésus défait en fait le lien qui existe entre ces morts violentes et la culpabilité des victimes. Les victimes de Pilate, elles ne sont pas coupables. Les gens qui ont pris la tour sur la tête ne sont pas coupables. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses mauvaises qu'il leur arrive des choses comme ça. Vous voyez, ça m'a rappelé l'histoire de Job. Vous connaissez le livre de Job dans l'Ancien Testament. Et tout le livre tourne autour de cette question-là. Pourquoi le mal? Pourquoi je dois subir un mal sans aucune explication? Pourquoi le mal qui m'arrive? Et pendant 36 des 42 chapitres du livre de Job, Job tourne autour de cette question avec des amis qui viennent plus ou moins lui expliquer que s'il souffre, c'est qu'il a péché. S'il souffre, c'est parce que Dieu a un dessein au travers de la souffrance, etc. Et Job n'arrive pas à accepter ça. Et pour lui, c'est pas aussi simple que ça. Le mal existe, j'y comprends rien. Et la libération vient quand Job lâche prise, si j'ose dire, et dit « Moi, j'y comprends rien, mais ce que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Et que c'est lui qui aura de toute façon le dernier mot. Voilà. » Et par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à l'année 2020, qui interroge beaucoup peut-être, il faut d'une certaine manière que nous en arrivions à ça aussi. Ne cherchons pas forcément des coupables à tout ce qui arrive et à tout ce qui nous arrive. Mais quelque part, nous sommes dans un monde qui nous dépasse. Alors dans cette première phase de la réponse de Jésus, il dit, vous voyez, il y a tel événement, il y a tel autre événement, et si vous cherchez, vous en trouverez plein d'autres. Et vous allez toujours vous heurter à une question fondamentale que vous ne saurez pas résoudre. Mais est-ce que vous croyez qu'au-dessus de tout ça, il y a celui qui veille, celui qui a toutes choses dans ses mains? La deuxième phase de la réponse, c'est l'avertissement que Jésus donne à ses auditeurs. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Vous périrez tous de même, pas massacré par Pilate. Vous n'allez pas tous recevoir une tour sur la tête. Ce n'est pas ça que dit Jésus. Et si vous ne vous repentez pas, comme il vient de dire que ce qui leur est arrivé, ce n'est pas la conséquence directe d'une faute, de quoi faut-il se repentir? Jésus leur fait entrevoir que, voilà, si on ne prend pas une décision pour sa vie, si on ne change pas quelque chose dans la façon dont on voit le monde, dont on voit notre place dans le monde, alors notre fin sera, même si elle est paisible dans un lit tranquille, elle sera aussi absurde, autant vide de sens que ce qui est arrivé à ces Galiléens, ou ce qui est arrivé à ces gens qui ont pris une tour sur la tête. Il me semble que Jésus continue à dissocier la culpabilité, le sort funeste qui est arrivé à ces gens. Et pourquoi est-ce qu'il le dissocie? Parce que vous savez, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, a dit ces phrases que tout le monde connaît. Hein. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Tous ont péché. Tous les hommes, pourquoi telle tuile m'arrive? Pourquoi il m'arrive tel malheur? Pourquoi l'année 2020 a été si mauvaise? On se demande rarement d'ailleurs pourquoi il nous arrive des succès. Hein, vous avez remarqué, on cherche surtout des explications quand ça ne va pas bien. Quand ça va bien, bon, laisse couler, hein, profite-en et ça ira. Mais pourtant, la question se poserait de la même manière. Pourquoi est-ce que telle chose m'arrive positive ou telle chose m'arrive négative? Est-ce qu'il y a une faute quelque part? Est-ce qu'il faut chercher un coupable? Et c'est vrai que l'explication la plus traditionnelle, ça a toujours été ce diptyque, la faute, la punition, le péché, la condamnation. D'ailleurs, notre système judiciaire est basé là-dessus. Il s'agit d'identifier le plus précisément possible et sans déborder qui et où a fait la faute, et puis mettre en face la punition qui paraît la plus adaptée. Je ne remets pas en cause la justice, hein, c'est-à-dire la société fonctionne comme ça. Mais Les amis de Job, eux, ils disaient, attendez, tu souffres, ça va pas bien, le monde tourne de travers, c'est sûrement que tu as fait quelque chose de mal. Mais tout ce que ça pourrait amener, si Job avait accepté ça, c'est une culpabilité mortifère, quelque chose sans issue. Et ce que Jésus vient de dire dans ces deux faits divers, il dit, si vous ne vous repentez pas, ça ne veut pas dire confessez vos fautes dans le détail, ça veut dire, si vous ne reconnaissez pas, si vous ne vous convertissez pas à l'idée qu'il y a autre chose que votre vie sur terre, si vous n'êtes pas comme Job, qui dit « je reconnais que tu peux tout ». Moi, j'ai parlé à tort et à travers, vous savez, la fin du livre de Job, c'est ça. C'est extraordinaire d'ailleurs, parce que Job se débat pendant, j'ai dit, je ne sais plus combien, 30 et quelques chapitres autour de cette question, avec ses amis qui lui cassent les pieds, qui essayent de trouver. Et puis tout d'un coup, Dieu apparaît, et puis Dieu ne répond pas du tout. Pour relire le livre de Job. Il ne répond pas du tout, il lui fait un espèce de diaporama géant de tout ce qu'il a créé sur terre. Mais il ne répond absolument pas à la question. N'empêche que le fait que Dieu se révèle comme ça, Job finit par dire, oh, d'accord, je reconnais, j'ai parlé à tort et à travers de choses qui me dépassent, la seule chose qui compte, hein, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et voilà la démarche que Jésus propose, je pense aussi là, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même, c'est-à-dire si vous ne changez pas de vie, si vous ne changez pas les orientations fondamentales de votre vie, plus que de se repentir de telle ou telle faute, ce qui peut être utile aussi, je ne dis pas ça, mais ça ne me paraît pas être le thème là, eh bien votre vie n'aura pas de sens jusqu'à ce que vous acceptiez de lâcher les clés. Quand je fais ce chemin, quand j'accepte que ben voilà, un enfant dans une crèche a montré quelque chose de bien plus grand que tous les livres de théologie, alors c'est pour moi qu'a été écrit ce texte de Romains 3. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Si je crois que Dieu intervient dans nos vies, alors voilà le résultat. Le résultat, c'est que je suis gratuitement justifié. Alors aujourd'hui, on devait avoir un baptême. Alors c'est vrai que j'avais un peu préparé la prédication en lien avec ça. Mais bon, ça viendra un autre moment, puisque vous savez que la famille, il vaut mieux qu'ils restent à la maison aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Hein. Mais c'était un bel exemple de ce changement de vie. Un baptême, ça ne vous transforme pas en quelqu'un de parfait. Le fait de reconnaître que j'ai fait telle ou telle faute, ça ne me transforme pas en quelqu'un de parfait. Ça réoriente ma vie, et publiquement, ça permet de dire, je veux réorienter ma vie vers cette vérité-là. Et à ce moment-là, la promesse de Jésus, elle est pour moi, celle que Daniel a rappelée dans sa prière, hein, « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà cette promesse que Dieu nous donne. Et alors, le texte qu'on a lu, il va un peu plus loin que ça, que cet échange sur la faute et la culpabilité, ou le mal ontologique, on va dire. Et Jésus raconte une histoire, il dit aussi cette parabole. Est-ce qu'il l'a raconté en même temps à ce moment-là? Je ne sais pas. En tout cas, Luc, ça lui a paru évident qu'il fallait rajouter cette histoire derrière ça. L'histoire du figuier. Une parabole. Un figuier qui ne produit pas. Et la phrase terrible du maître. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Combien de nos concitoyens ont l'impression d'occuper la terre inutilement? Combien de gens sur terre se posent des questions? Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi ça nous arrive? Et ils ont l'impression d'être des gens inutiles sur la terre, comme ce figuier qui était là. Et un figuier, ça prend de la place, beaucoup, très vite. On en a un chez nous. Tiens, on a vécu à peu près une histoire pareille. Et moi, je vais être le maître qui était méchant, et Huguette, c'est... voilà, parce que ce figuier, il envahit tout, là, ça fait... Puis quand les feuilles tombent à l'automne, une feuille de figuier, c'est gros comme ça, il y en a partout, c'est une galère à ramasser. Et ça fait bien 2-3 ans qu'il produisait pratiquement pas de figues. Alors j'ai tout essayé, bon je ne suis pas un grand spécialiste, hein, donc j'ai essayé de tailler par-ci, j'ai essayé un peu de tailler par-là, je ne pense pas que j'ai fait beaucoup de bien au figuier, bon d'ailleurs, enfin en tout cas le résultat n'était pas là, puisqu'il n'y avait toujours pas de figue, et j'étais prêt à le couper, je disais, écoute, écoute, il me casse les pieds ce truc, je prends ma tronçonneuse, je le descends, vrai, hein, histoire vraie. Et elle dit, mais non, attends, reste donc, laisse, mais non, c'est bien d'avoir un figuier, elle est très attachée à l'idée qu'un figuier, c'est très, ça, il y a plein de symboles bibliques en particulier. Bon, bah, c'est tout, j'ai posé ma tronçonneuse et puis on a laissé le figuier. Alors, bon, chacun trouvera l'explication, réchauffement climatique, une année exceptionnelle, les soins du guette sur le figuier, le fait que je l'ai laissé tranquille, je ne sais pas, mais cette année, on croulait sous les figues. Pour de vrai, On en a congelé plein parce qu'on savait, vous savez, les filles, quand vous les cueillez, elles tournent très vite. Hein, et puis on en avait trop, on n'arrivait pas à les manger. Donc Huguette en a mis au congélateur pour des trucs, voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu très, voilà, très, très concrètement. Jésus raconte cette histoire. Il raconte cette histoire, voilà, il y a un figuier, hein. Et ce figuier, c'est chacun d'entre nous. On peut se considérer, on peut considérer l'autre comme étant planté là inutilement et occupé de la terre qui sert à rien, qui rapporte rien, qui produit rien. Et donc la bonne logique, ça serait hein, de supprimer, de le couper, et de mettre autre chose à la place, peut-être de remettre un figuier qui, lui, va faire ce qu'il faut. Et Jésus, il présente une autre issue, et il dit non, ça a une utilité, et on va faire quelque chose. On va faire quelque chose, mais il faudra accepter de se faire gratouiller autour du pied. On va accepter de se faire mettre un peu de fumier sur les chaussettes. Eh oui, ça fait partie de ce qu'il y a à faire. Et c'est ça quand même. Hein. D'autres textes dans l'Évangile, celui-là ou d'autres, utilisent d'autres images. Il faut accepter qu'on coupe les sarments qui ne produisent pas. Hein. Tout le chapitre 15 de l'Évangile de Jean donne cette image-là. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, parle d'être greffé. Il faut que nous soyons greffés avec le bon greffon pour qu'on puisse poursuivre notre croissance correctement et comme Dieu le souhaite. Mais on a une utilité, à condition de faire ce chemin qui nous a été proposé dans les illustrations d'avant. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Si vous n'acceptez pas qu'il y a besoin de travailler un peu, mais qu'il y a une utilité finale, et que vous devez pouvoir finir par arriver à ce que Dieu souhaite, repentez-vous, convertissez-vous, acceptez le fumier et le coup de sarcloir autour du pied pour arranger. Et alors Jésus nous propose, même s'il ne répond pas directement à la question des gens qui étaient venus le voir, on dit « T'as vu ça? C'est scandaleux, Pilate réagit hein !» On attendait de lui qu'il ait une réaction politique en désignant un coupable, etc. Et Jésus, au lieu de ça, il déplace les gens, les oblige à réfléchir au-delà de l'événementiel, au-delà de l'instantané. Un glissement pour dire « Oui, dans le monde autour de nous, c'est vrai que, comme disait Shakespeare, il y a du bruit et de la fureur. Il y a éventuellement des destins tragiques. Il y a des choses dramatiques qui se passent. Et puis à l'opposé, il y a celui qui donne ses soins au figuier. Il y a celui qui donne tout le temps nécessaire au figuier, qui va travailler autour, qui va garder l'espoir, qui va lui accorder sa grâce, en quelque sorte, pour le raccrocher à la vie. Repentez-vous, ça veut dire, vous choisissez quoi? Vous choisissez d'accepter d'être envahi en permanence par ces événements tragiques, pour vous ou pour vos proches, ou pour des gens que vous ignorez totalement, qui habitent à l'autre bout de la planète et qui aujourd'hui envahissent nos esprits. Vous acceptez ça? Ou bien vous choisissez autre chose? Vous choisissez qu'on vous propose un chemin de grâce, un chemin qui vous amène vers autre chose, mais vous acceptez aussi qu'on gratte un peu, qu'on coupe les sarments qui ne vont pas bien, qu'on greffe, que l'on fasse un certain nombre de travaux et que vous ayez à participer à ces travaux qui vont vous amener à quelque chose de plus semblable à ce que le maître voulait pour vous. Ce glissement, c'est comme les paroles de Moïse au peuple d'Israël à la fin dans le Deutéronome, à la fin du Deutéronome, oui, c'est au chapitre 30. C'est avant les dernières prières qui sont relatées dans ce livre. Deutéronome 30, verset 19, donc le 1 de Deutéronome, la fin de ces cinq livres du Pentateuque où Dieu a révélé sa loi et la manière dont il veut que les gens se comportent, avec parfois des détails qui nous paraissent vraiment extrêmement détaillés, si j'ose dire, et puis aussi des choses plus générales. Et Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. » Et après, on est dans le contexte où il s'agit d'un peuple qui va rentrer dans le pays promis, etc. Mais « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Je pense que c'est, voilà, ce chapitre 13 de Luc, moi, m'a fait penser à ça. Il y a d'un côté le monde, avec tout ce qui tourne de travers, qui nous interpelle et qui peut nous envahir sans jamais nous permettre de sortir de cela, et sans jamais nous repentir et nous convertir et nous tourner vers celui qui nous dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Alors c'est sûr qu'entre le passé, avec tout ce, l'année 2020, on peut ressasser tout ce qui est arrivé, l'avenir qui nous échappe, notre naissance, notre mort, Jésus ne donne pas toujours les explications et la Bible ne donne pas toujours des explications à tout. D'ailleurs, quand on cherche vraiment toujours des explications ponctuelles, des fois on dérape et on invente des choses qui nous arrangent bien. Mais Jésus nous propose un chemin qui est d'accepter que non, on n'est pas inutile. Non, on n'occupe pas inutilement la terre. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, ici, mais pour chacun des personnes qui sont autour de nous. Et parlons de ceux que nous connaissons, hein, ceux qui sont à l'autre bout de la planète, on ne les connaît pas. Mais c'est vrai aussi pour eux. Il a un chemin de grâce qui veut nous amener à nous repentir et à dire, comme disait Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. » Et Job, il voyait quoi? Il n'avait pas vu la réponse à ses questions. Il a simplement accepté que Dieu, par grâce, voulait toujours lui offrir un avenir. Voilà un peu ce que m'avait inspiré ce chapitre 13 de l'Évangile de Luc. Je vais essayer de m'accrocher, je vous invite à faire de même, et demain je lis le chapitre 14. Voilà, ça va. Je vous invite à la prière. Seigneur, chaque jour nous entendons les bruits, les discours de ce monde, des paroles de haine parfois, de violence souvent. Des prophètes de malheur nous prédisent le pire. Des puissants brandissent la peur comme arme de persuasion. À qui irions-nous? Qui croire? Que croire? Donne-nous, Seigneur, de recevoir de ta part une parole de paix et d'espérance, de percevoir de ta part des chemins de vie. Tu as connu l'épreuve de la peur au désert, de la solitude de la mort, mais tu es vivant. Viens rejoindre nos peurs, Seigneur, pour nous rendre malgré tout clairvoyants, attentionnés, confiants, attentifs et conscients que tu nous aimes au-delà de tout. Amen.